Voilà. Alors, donc voilà le plan général et voilà aujourd'hui le plan de cette soirée. Non, ça c'est le titre, avec un tableau de Rembrandt très peu connu en France. Et voilà le plan. On va en effet ce soir avoir pas mal de... La première grande partie, ce sont les hymnes christologiques. On entend par là des textes qui sont dans les épîtres pauliniennes. Qui prennent la figure d'hymne, en effet, je vais vous expliquer ça dans un moment. Et donc ça, ce sera vraiment, je vous ai laissé une feuille avec les traductions sur la plateforme, donc vous avez peut-être, selon vos habitudes, soit imprimé, soit ouvert la page jointe qui vous a été envoyée. Sur les hymnes christologiques, on va suivre ça, vous allez voir, ça va être une partie très, un petit peu technique. Ensuite, on aura une partie un peu plus iconographique avec le baptême du Christ, puis une partie un peu plus anthropologique, si j'ose dire, avec les tentations du Christ. Et puis enfin, on finira avec la question du salut de la matière. Vous verrez, c'est greffé sur un des aspects du baptême du Christ. Voilà, donc je vous invite à avoir sous les yeux les hymnes christologiques de Saint Paul. Et nous allons principalement en observer trois, les plus connus. Il y a en effet dans les épîtres de Paul, de temps en temps, des hymnes. On entend par là un texte que la liturgie va reprendre à titre de chant, autant d'ailleurs pour les secondes lectures le dimanche. Et donc vous allez voir. Ce sont des textes que vous connaissez. Ces hymnes, en fait, sont chantés, l'ont probablement toujours été, y compris dans la plus haute tradition, et ils sont aujourd'hui utilisés beaucoup dans les hymnes, dans les vêpres et les laudes, c'est-à-dire les offices monastiques de la prière des temps présents. S'ils sont ainsi chantés, c'est parce qu'ils ont, du point de vue littéraire, quelque chose évidemment poétique. Dans les formulations, vous verrez, il y a de très belles formulations poétiques. Soi-même, et surtout, hein, c'est ça qui va guider les exégètes, dans la technique d'écriture, parce qu'elle reprend des procédures poétiques classiques de la culture hébraïque. Attendez, je vais couper les micros parce qu'il y a un bruit de fond. Voilà, désactiver, tac, voilà. Voilà, je ne vous entends plus. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Et donc, oui, j'étais en train d'expliquer que les exégètes hein, découvrent facilement que ça répond à des règles de poésie qui ne sont pas du tout les nôtres, bien sûr. Ce ne sont pas des sonnets à la façon très française. La poétique hébraïque est fondée sur des cadences, bon, comme nos pieds, si vous voulez, le nombre de pieds d'un vers. C'est des cadences, des sons. Alors ça, c'est perdu dans la traduction, hein, des dominantes majeures de ou. Vous avez un verset avec ou, une dominante avec trois mots dont les assonances sont dans les ou, on, o. Et puis une autre dans les i, et, enfin des voyelles aiguës, disons. Et voilà, ça c'est perdu dans la traduction. Par contre, ce qui n'est pas perdu du tout, et ce que les traducteurs s'efforcent de reproposer, ce sont les rythmes, voire même les rythmes en nombre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, des rythmes comme ça, et parfois jusqu'à, avec des trucs très, très sympathiques, hein, du genre 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, vous voyez, c'est des trucs qu'on repère. Bon, voilà. Et ça, évidemment, ce n'est pas du Saint Paul. Ce n'est pas du Saint Paul parce que Saint Paul n'est pas poète. C'est un spéculatif, c'est un intellectuel, il est pharisien, il est disciple de Gamaliel, c'est pas un poète. Voilà, c'est pas un liturge non plus. Une de ces hymnes, vous la connaissez très certainement, c'est 1 Corinthiens 13, qu'on appelle habituellement l'hymne à l'amour, si Édith Piaf n'avait pas pris le même titre. C'est, vous savez, s'il me manque la charité, j'aurais beau faire tout un tas de trucs, s'il me manque la charité, je ne suis que cymbale retentissante, etc. Et cet hymne aux Corinthiens, chapitre 13, est sur le rythme 3. sans cesse, vous avez des répétitions, vous avez trois refrains, vous avez trois paragraphes, etc. Donc Paul, en fait, emprunte très certainement à la synagogue et particulièrement à un type de prière qu'on appellerait aujourd'hui la prière de louange. Peut-être transforme-t-il le texte. On verra qu'il y a une épître où il est très probable qu'il a réécrit les paroles, mais sur un rythme qu'il a emprunté à une liturgie. Parce qu'il n'est donc pas poète. Disons, pour faire au plus simple, qu'il emprunte des hymnes déjà en usage et pratiqués comme chants liturgiques, et il les enrichit dans le commentaire qui entoure l'hymne. Et donc, il faudrait, mais ce n'est pas mon but ce soir, hein, il faudrait pour un bon exégète aller voir comment et pourquoi il cite une hymne. Par exemple, si je reprends 1 Corinthiens 13, le verset avant, c'est « Frères, vous cherchez à obtenir les dons les meilleurs. Eh bien, moi, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. » Alors, ça, c'est vraiment du saint Paul, hein. Avec quelque chose d'assez péremptoire, assez docteur. Deux points, ouvrez les guillemets, et il fait la citation entière de l'hymne. Donc voilà, il emprunte dans un contexte de démonstration. Ou bien parfois, il change tel ou tel corps du poème. On va voir ça. Je dis un mot aussi du contexte de ces prières. Ah oui, voilà, je mets une photo de synagogue parce que c'est probablement là, dans ce type de liturgie, que les chrétiens ont commencé à se réunir. Et puis progressivement, ils ont été assidus à la fraction du pain. Mais en tout cas, quand ils étaient assidus à la fraction du pain, très certainement, ils n'ont pas écrit tout d'un coup un répertoire de chants. Et donc, ils ont emprunté à des hymnes qui les précédaient dans la tradition juive. Et donc, il ne faut pas s'étonner que dans les poèmes que nous allons étudier, la texture, le style littéraire, soit de la tradition juive. Par contre, le texte va être christologique. Voilà, donc c'est ça qui va évidemment nous intéresser. Alors, un mot sur le contexte de ces lettres. Comme vous le savez, Paul a beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen, d'abord pour fonder des églises. Et il était très vagabond, il restait dans un endroit, il fondait une église, c'est-à-dire une toute petite cellule, et puis il s'en allait ailleurs. Il est très nomade. Et donc, première tournée, il fonde des églises. Deuxième tournée, il visite les églises qu'il a ainsi fondées, il les consolide. Et dans ce jeu, dans ce ministère de consolidation, entrent les lettres. Voilà, toutes les lettres que nous avons sont en fait comme des visites. Il ne peut pas se rendre sur place. Et donc, il écrit. Et ce sont des lettres circulaires. Bon, vous verrez ça probablement avec Jocelyne, qui vous en racontera davantage. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre circulaire? Ben, il écrit une lettre, on en fait des copies, et on le distribue à tout le monde. Et puis, elle circule beaucoup. Circulaire, ça veut dire ça. Ça veut dire que ça circule. Et donc, vous savez aussi probablement que Saint Paul, pendant ses missions, s'est vu quelques adversaires. Et parfois même, il a causé des troubles dans les villes, des troubles de l'ordre public. Et donc, il est parfois accusé. Parfois, au bout d'une enquête, on se rend compte que c'est lui l'auteur, le fauteur de troubles. Et bien, il se retrouve en prison. Il a été plusieurs fois en prison, hein, dans son ministère, trois fois. Et les lettres que nous avons sont écrites de la prison. Alors, voici voilà, une photo de prison, une de celles qu'on nous montre en Grèce. Quand il est à Rome, il va rester en prison 2 ans à Rome, à la suite de son troisième voyage. Il écrit à Éphèse et à Colosse. Nous allons lire ces deux épîtres, enfin ces deux hymnes extraites de ces épîtres, épîtres, lettres. C'est la même chose. Et puis, un peu antérieurement, il avait déjà écrit une lettre à Éphèse, l'église d'Éphèse. Non, il a écrit, pardon. Il a écrit d'Éphèse, où il était en prison. Alors, Éphèse, il a passé également plusieurs années à Éphèse, mais pas toujours en prison. Il a passé 2 ans et demi à Éphèse, probablement. Il a suscité une émeute, tellement sa prédication était efficace. Et risquait de mettre en déséquilibre le profit de ceux qui fabriquaient des petites statues de déesses grecques. Et donc, ça a provoqué une émeute, et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison. Bon, il n'y est pas resté très longtemps, mais il en profite pour écrire à Philippe, l'église de Philippe. Philippe, c'est une ville. C'est ce que nous verrons également. On va commencer d'ailleurs par celle-ci. La lettre aux Philippiens. Philippe est la toute première communauté à s'être formée au départ de la ville d'Antioche, donc dans les premières missions où Barnabas était le chef de la mission et Paul son adjoint. Et il est très attaché à cette communauté. Petite curiosité au passage, cette communauté a comme pasteur, comme fondateur, des femmes. Lydie est une femme sur laquelle saint Paul a beaucoup fondé, ainsi que l'entourage de Lydie. Et donc Paul y est très attaché. C'est la raison pour laquelle il acceptera uniquement de cette église et de elle seule une aide financière. Paul se débrouillait toujours pour être autonome du point de vue financier. Il était drapier, il fabriquait des tentes ou des toiles pour les bateaux. Et par contre, de l'église de Philippe, il accepte volontiers des dons en espèces. Et c'est parce qu'il y est très attaché comme une famille, si vous voulez, comme sa première famille. Nous sommes dans les années 53, 53, 54, vous savez, c'est toujours un petit peu hypothétique. Alors, on va voir je vous montre sur cette carte où est Philippe. Et voilà ce qu'il en reste. Aujourd'hui, c'est un lieu archéologique tout à fait fameux. Hein, c'est une belle ville romaine. Ici, on voit une vue sur le forum, tout autour du forum, comme d'habitude, le forum étant un lieu de débat. Tout autour, vous aviez une basilique, un odéon, etc. Quelques temples, bien sûr. Voici le texte. Je vous le lis une fois. Puis vous allez essayer de repérer comment c'est organisé. Et là, je mets en œuvre pour ces trois hymnes une méthode que j'ai moi-même reçue de Kowalski. Kowalski, c'est un gars que j'ai, un professeur d'écriture sainte, que j'ai connu quand moi-même je faisais des études. Et alors, il nous demandait d'arriver au cours. Vous savez, on n'avait pas d'informatique à l'époque. Il nous demandait d'arriver au cours avec des crayons de couleur. Et alors, il nous faisait comme on a fait pour le prologue de Jean. Il nous faisait crayonner les répétitions, les trucs qu'on avait déjà entendus dans une autre hymne, etc. Et avec des couleurs différentes. Et vous allez voir, je vais vous faire rapidement, on ne va pas y passer une heure sur chaque hymne, mais elles sont très construites. Et vous allez voir qu'elles sont en effet très construites selon des normes poétiques. Donc je vous le lis. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous terre, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc vous voyez que vous connaissez cet hymne. Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà chanté. En tout cas, elle appartient à la liturgie. Dans cette mise en page, vous voyez très bien le schéma de la structure de cet hymne. Vous avez en gros gloire première, abaissement. Gloire finale. Le premier groupe exprime clairement la condition divine du Christ, ayant la forme de Dieu. Il ne s'accroche pas. Alors voilà, je traduis comme ça parce qu'il ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu. C'est le verbe harponome, qui veut dire littéralement, vous savez, quand on dit que quelqu'un est crampon, ça veut dire qu'il s'accroche. Et ça veut dire littéralement harponner, c'est-à-dire s'accrocher. Ayant la condition de Dieu, il ne s'accroche pas au rang qu'il égalait à Dieu. Ce rang, cette gloire, cette égalité avec Dieu, la théologie n'a cessé de le rappeler. Vous savez, on l'a vu avec les querelles christologiques. Car c'est celle-ci qu'il retrouvera lors de la résurrection, amplifié de toute la louange cosmique. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous savez, je vous avais expliqué, quand on avait vu la question, est-ce que la messe est un sacrifice ? Vous avez dit que oui, le Christ s'offre à son Père de toute éternité, puis ensuite, il s'offre à nous en s'incarnant, puis ensuite, en ressuscitant, il entraîne avec lui, puisqu'il a pris notre corps, il a pris notre chair, il est en quelque sorte lesté de notre réalité humaine, et il l'entraîne pour l'offrir au Père. Eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est avec le cosmos. Et il a pris, on pourrait dire qu'il a pris matière quand il a pris chair. Eh bien, tout en bas, vous voyez, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et sous terre. Donc, il n'est pas question, vous voyez, de l'humanité dans son ensemble, sans oublier les Coréens, les Inuits. Il est question, là, pratiquement, de toute la création, de tout le créé. Et que toute langue proclame, vous savez que le monde hébraïque, on prête une langue à la matière. Vous vous souvenez, il y a une hymne de l'Ancien Testament qui dit « Et vous, les cieux et les collines, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. » Donc voilà, c'est... Et donc ici, vous avez très nettement dans cette gloire une sorte d'entraînement du cosmos dans cette gloire. C'est très intéressant, hein. On finira le parcours, tout le parcours du CIF. C'est-à-dire quand vous serez en deuxième année, le dernier cours de votre parcours entier, ce sera un cours sur la liturgie cosmique. C'est moi qui le fais. Et donc, on reviendra sur ce thème hyper important. On voit maintenant les premiers versets. Non, c'est le dernier que je viens de vous expliquer. C'est pourquoi, vous voyez, cette structure en emboîtement, je vous ai déjà parlé de ça, hein, les poupées russes. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, qui correspond, qui répond, qui fait écho à la gloire de Dieu le Père. La gloire, l'exaltation, c'est la même chose. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et sur la terre. Vous voyez cette cadence de trois ? Voilà, c'est un procédé, ça, typiquement, de la poésie hébraïque, avec cette structure en poupée russe. C'est un procédé rabbinique. C'est un procédé aussi de mémorisation. Vous savez qu'on est dans la tradition orale. Et donc, dans la tradition orale, il faut comme ça des procédés pour qu'on puisse presque répéter par cœur ces enseignements. Et donc, les hymnes, les chants vont servir de premier support mémoriel pour la catéchèse, pour apprendre l'essentiel de la foi. Et donc ici, l'hymne, évidemment, repose sur ses cadences en enseignant quelque chose du Christ qui est tout à fait extraordinaire, l'exaltation, c'est-à-dire la gloire. Sur le mot « gloire », il ne faut pas se tromper, hein. La gloire, dans la Bible, ce n'est pas la gloriole, ce n'est pas non plus la victoire, comme, je sais pas, César, quand il rentre de victoire, connaît le triomphe. La gloire, c'est la vérité, ou, si vous voulez, la plénitude. Ah, et donc, quand on dit la gloire de Dieu, c'est la plénitude, la vérité de Dieu, au-delà de ce qu'on peut nous en penser, au-delà de ce qu'on peut en saisir, la gloire de Dieu, l'insaisissable, sa vérité, sa plénitude. Donc voilà, vous avez repéré les cadences de trois, Jésus, Christ, Seigneur, et puis en plein centre, la liturgie cosmique auquel je faisais allusion. Cette liturgie cosmique, hein, c'est ce projet de glorification de Jésus-Christ, y compris sur le cosmos, c'est ce que nous avons traduit aussi bien dans la liturgie, dans l'iconographie byzantine que romane, par ce que nous appelons les pantocrators. Pantocrator, ça veut dire celui qui règne sur tout, pan, tout. Pantocrator, c'est ça. Hein. Et donc, nous, et on a en quelque sorte Jésus, sauveur, a en quelque sorte christifié toute chose. Il a rempli de sa présence toute chose. Et toute chose est dorénavant, ou sera dorénavant, orientée à la louange. Entre ces deux gloires, vous avez ce que j'ai encadré en vert, le mouvement descendant. En fait, il est encadré par la gloire. C'est-à-dire ce mouvement descendant de l'incarnation de Jésus semble, aux yeux humains, semble être une perte par rapport à la plénitude de sa divinité. Un anéantissement, un abaissement. Alors, vous voyez comment c'est répété. Là, c'est très facile à repérer. Vous avez une double répétition. Il s'est anéanti, il s'est abaissé. Alors ça, c'est très intéressant de voir les mots aussi. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Donc, vous voyez également une petite tripode. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Anéanti veut pas dire réduire à néant. C'est pour ça que j'ai été chercher la précision lexicale, bien que je ne suis pas du tout doué en grec, mais les dictionnaires aident beaucoup, et les notes en bas de page de vos bibles, hein, ça je vous conseille beaucoup de faire ça. Et puis moi, j'ai chez moi un Nouveau Testament surlinéaire, c'est-à-dire avec la traduction au mot à mot du grec, traduit en français mot à mot, mot par mot. Et à côté, j'ai un dictionnaire de grec biblique, et donc je peux vérifier les mots. Et le mot qui est utilisé ici, akenosen, veut plutôt dire, on est dans la mentalité de ce que nous avons dit la dernière fois sur le sacrifice de la messe. C'est-à-dire, offrande, s'offrir, s'ouvrir. Et là, le mot même a une espèce de petite signification du genre déverser. Et donc, vous voyez, il y a un mouvement d'abaissement, on peut dire, de kénose. Kénose, ça veut dire s'abaisser, mais pas d'anéantissement. Le mot néant n'est pas dans le vocabulaire de l'hymne. Donc, on pourrait dire, il s'est offert, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. On est en train de méditer sur l'incarnation. L'incarnation est Dieu en tant qu'il se déverse, en tant qu'il s'offre. Et ensuite, vous avez le terme, le deuxième terme est également très intéressant, il s'est abaissé. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire ça pour toutes les hymnes, mais c'est pour bien préciser la richesse de ce lexique. Il s'est abaissé, alors là aussi, le mouvement, le mot qui est utilisé veut plutôt dire, il s'est abaissé d'ailleurs devenant obéissant, et c'est assez cohérent, ça veut dire se conformer, ou plus exactement, être cohérent, se conformer à ta décision, se conformer à ce que tu fais. Donc, il s'est offert, déversé, et il est cohérent en se faisant le serviteur de tous. Et donc voilà la signification de cette partie centrale de l'hymne. Donc, vous voyez, à chaque fois, je vais tenter de faire une sorte de mot, de groupe, une phrase pour dire l'essentiel de cet hymne. Mais ici, je dirais ça. Vous voyez, c'est-à-dire, on voit au milieu de ces deux gloires, on voit ce mouvement qui explique ce qu'est l'incarnation. Alors, comment j'ai traduit ? Dieu plonge en humanité pour tout glorifier en lui, ou si vous voulez, pour tout ramener à lui, ou pour tout exaucer en lui. Donc voilà, ça, voilà la dominante de cette première hymne. Voilà, donc vous voyez, on va faire cette petite méthode trois fois de suite, donc encore les deux autres hymnes. On va faire un petit tour, là, comme ce facteur. On va lire la lettre aux Colossiens, enfin pas la lettre, l'hymne extraite de la lettre à Colosse. C'est une église que Paul n'a pas fondée ni visitée. C'est Épaphras, qu'on ne connaît pas par ailleurs, c'est Épaphras qu'en est l'évangélisateur. Donc ça prouve, vous voyez, que dans les toutes premières années après la dispersion des apôtres, des disciples, d'autres que le collège apostolique sont partis en mission et ont été efficaces. Mais cependant, Paul prend la peine de leur écrire. C'est l'hymne des Colossiens, et encore un texte que Paul emprunte et qu'il enrichit. Celle-ci, on suppose qu'il l'a pratiquement réécrite. En tout cas, il a gardé le rythme poétique. C'est bien construit, c'est rythmé, etc. Je vous montre sur cette carte où est Colosse. Voilà, donc vous vous souvenez où nous étions tout à l'heure. Là maintenant, on est à peu près dans la même région, mais encore une fois, il ne s'est pas rendu dans cette. C'est aujourd'hui tout près du lac de Béchéir, pour ceux qui connaissent un peu la Turquie. Voici le texte, mais vous l'avez sur vos feuilles. Hein. Et sur vos feuilles, j'ai également mis la mise en page qui vous permet de lire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Tiens, tiens. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Voilà l'hymne. Alors, si j'étais à la place de Kowalski, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, je vous demanderais repérer un mot-clé qui appartient et à l'une et à l'autre de ces parties. C'est ce mot-clé qui va nous dire, nous sommes au premier paragraphe, nous sommes au deuxième paragraphe. Ce mot-clé, vous l'avez repéré. D'abord, il y a deux paragraphes très nets, et le mot-clé en question, c'est le premier-né. Étonnante expression, le premier-né avant toute créature, toute créature. Et là, vous avez reconnu, je vous l'ai signalé à la lecture, hein, mais il est à nouveau question d'une sorte de salut cosmique, hein, dans le ciel, sur la terre, puissance, principauté, etc. Et le premier-né d'entre les morts, qu'il faut comprendre comme le premier-né des mortels. C'est-à-dire, parmi les mortels que nous sommes, c'est le seul qui soit vraiment né. Nous, on est né au monde, mais lui, il est né à la vie, en mourant et en ressuscitant. C'est ça que ça veut dire. Hein. Premier-né d'entre les mortels. Premier-né, ça veut donc dire qu'il va y en avoir d'autres, nous. Donc, voilà, cette expression premier-né est tout à fait importante. C'est donc bien lui, le Fils éternel, le premier-né avant toute créature, ou avant tous les siècles, dit-on aussi, qui est également celui qui ouvre les portes de la mort, premier-né d'entre les morts. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous montrer cette petite photo en m'exprimant. C'est une icône de l'anastasis. Anastasis, c'est un mot grec qui veut dire résurrection. C'est une icône classique. Peut-être que vous aviez repéré, là voilà, ça je fais du Kowalski maintenant, enfin déjà j'avais commencé, peut-être que vous avez repéré cette répétition étonnante. Toute créature, en lui tout fut créé, tout est créé par lui, toute chose, tout subsiste, enfin, etc. Neuf fois je crois, enfin je sais plus très bien, en utilisant le mot pan, pan. Qui veut dire comme dans Pantocrator, ce qui règne sur tout. Avec ces énumérations un peu étranges, que je vous mets ici en bleu, ce qui qualifie tout ce qui est dans le ciel et la terre, c'est quoi tout ce qui est dans le ciel et la terre? Alors, les oiseaux, les poissons, les bœufs, ah ben non, 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 c'est les êtres visibles et invisibles. Alors, lesquels? Puissance, principauté, souveraineté, domination, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on ne sait pas. En tout cas, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, tout ce qui est destiné. Voilà, créer, ouais, quand on dit Dieu est créateur, il faut immédiatement comprendre comme il est notre destinée. Voilà, Dieu ne crée pas parce qu'il s'ennuyait tout seul. Il crée par surabondance de dons. Il est, nous le savons, parce que la révélation nous a révélé la Trinité, c'est-à-dire le don qu'est Dieu. La Trinité, c'est le don qu'est Dieu. Je vous ai expliqué ça. Hein. Et, mais par débordement, la création est destinée, premièrement, à chanter la louange de Dieu, et deuxièmement, à être déifiée. Voilà, c'est bon, vous trouvez comme ça, c'est sous des formulations poétiques, des trucs absolument essentiels sur la foi chrétienne. Toute cette histoire de salut cosmique, vous l'avez ici. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, et tout en bas, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Donc, vous voyez, il y a des espèces d'échos qu'on retrouve dans l'une comme dans l'autre. Dans la première strophe, il est question de des choses, toute créature, tout subsiste en lui. Et dans la seconde strophe, ah bah oui, j'ai oublié de passer ça tout à l'heure. Là, c'est le créateur, hein, très bien. Le créateur, le destinataire, le destinateur, enfin, je ne sais pas comment dire, quoi. C'est créé par lui et pour lui. Voilà, ça, c'est absolument fondamental. C'est quelque chose que saint Paul rabâche sans arrêt. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la destinée. Dans la seconde strophe, je disais, la première estrophe, c'est plutôt avec une dominante cosmique. La seconde strophe, plutôt la dominante être humain, le premier-né d'entre les morts. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Christ ressuscité prend la tête de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire tous les êtres sur la terre qui vont être réconciliés en lui. Je signale aussi ces répétitions en rouge. Alors, peut-être que vous les aviez repérées, j'en ai déjà parlé. C'est très intéressant. C'est constant dans le vocabulaire de Paul. C'est là où on sent que Paul est intervenu dans l'écriture de cet hymne, parce que c'est un procédé typiquement paulinien. Par lui, avec lui, en lui, pour lui, ça, dans saint Paul, vous trouvez ça sans arrêt, absolument sans arrêt. Et donc, et ça veut bien donc dire ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire le Christ alpha, c'est-à-dire le créateur, le Christ oméga, c'est-à-dire ce à qui nous sommes destinés, et le Christ chemin par lui, en lui, avec lui. Bon, voilà, c'est. Alors, voilà pour cette hymne, vous voyez, qui est très belle, qui est sur tout ce que je viens de vous expliquer. Quand je disais que la seconde partie est plus sur l'humanité et la première plus sur le cosmos, il faut signaler que vous avez dans cet hymne l'introduction d'une notion très importante chez Paul, mais qui ne fait pas l'objet d'une hymne, mais c'est la raison pour laquelle je vous le signale ici, pile au centre. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Alors ça, c'est très important. Le corps comme Église, l'Église comme corps. Une notion que saint Augustin va développer en parlant du Christ total ou du corps total du Christ. Le corps total du Christ, c'est quoi? C'est Jésus de Nazareth, Jésus ressuscité et son Église dont nous sommes. Alors, je vous le signale là au passage parce que c'est une des premières fois que saint Paul développe ce thème. Enfin, il ne le développe pas, il l'invoque, il l'évoque. Et par contre, il va beaucoup le développer dans ses raisonnements pour le coup, pas dans sa poésie. Vous savez, vous connaissez, hein, c'est l'hymne où il dit, on peut comparer l'Église à un corps humain. Dans un corps humain, le petit doigt ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Enfin, vous connaissez tout ça. Donc chacun a sa place, selon ses charismes. L'image de l'Église comme corps est quelque chose de très important. Ça, vous le verrez avec Anne Riguinet, dans un autre cours sur l'Église. Elle vous en parlera évidemment. Et donc, pour récapituler cette hymne, bon, voilà, j'ai trouvé cette petite formulation, le premier-né est la tête du corps. Voilà, le premier-né, parce que deux fois c'est répété, et puis que c'est bien la clé d'interprétation de cette hymne. Avec cette image baroque, évidemment, hein, où tout fuit vers cette lumière. Et dans la lumière, là, on distingue encore plus lumineux que le reste une croix. Voilà, c'est. Passons à l'épître aux Éphésiens, notre troisième hymne christologique est considérée par les exégètes comme un développement de la précédente, l'hymne aux Colossiens. Elle est écrite également de la prison où se trouve saint Paul, à Rome. C'est son dernier voyage, il va mourir à Rome. Saint Paul connaît très bien Éphèse. Je vous l'ai dit, il y a résidé plusieurs années. C'est l'endroit où il d'ailleurs est resté le plus longtemps. Je vous l'ai dit aussi, c'est un nomade. Il bouge beaucoup. Il fonde et il s'en va. Et là, il est resté presque de deux ans entièrement. Alors que d'ordinaire, il reste quelques mois uniquement à chacune des étapes. Regardez sur la carte où est Éphèse. Eh bien, lors de son troisième voyage, le dernier voyage qu'il a fait, quand il était en captivité, quand il partait pour la captivité, il s'est fait arrêter sur la plage d'Éphèse, mais il n'a pas été en ville. Comment ça se fait? Alors qu'il est très attaché à Éphèse. Il a plutôt fait venir les anciens d'Éphèse, c'est-à-dire les piliers de l'Église. Il les a fait venir sur la plage et nous assistons là, dans les Actes des Apôtres, à une scène très touchante, les adieux de Paul aux anciens d'Éphèse. Pourquoi ne va-t-il pas à Éphèse rencontrer toute la communauté? Parce que saint Jean vient d'y arriver. Saint Jean et Marie. Or, il le dit lui-même dans une de ses lettres, il a pour principe de ne pas aller là où d'autres prêchent. C'est-à-dire, quand il y a un autre leader, disons, un autre champion de l'évangélisation, alors vous pensez quand c'est saint Jean, eh bien, il n'y va pas. Et donc là, très certainement, hein, les exégètes sont à peu près d'accord là-dessus, saint Jean vient d'arriver à Éphèse avec Marie, et on retrouve à Éphèse la maison de Marie, sur les hauteurs, hein, ce n'est pas tout à fait en ville, et c'est un lieu qui est très vénéré, Éphèse. Et peut-être que vous savez, si vous avez lu l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, vous avez, donc de saint Jean, vous avez une série de tout un chapitre qui dit à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, je dis ceci, je dis cela, et il y a sept églises. Eh bien, ce sont toutes des églises fondées par saint Jean sur la côte Égéenne. Et donc, à partir d'Éphèse, il rayonnait considérablement dans la région. Tout ça, c'est sur la côte Égéenne, donc du côté de Éphèse, Pergame, Milet, Didyme, etc. Donc voilà pour la situation. Cet hymne, comme les deux autres, a un aspect liturgique, chanté. Ce qui est particulier, c'est qu'elle est le résumé de toute l'épître. Donc celle-là, on pense qu'elle a été écrite d'un bout à l'autre par saint Paul. Alors que je vous disais, les deux premières, il se contentait de corriger, d'accentuer à sa manière. Bon, tout ça, c'est des hypothèses. Donc, voilà la caractéristique de cette hymne. Voyons ça. Alors, vous l'avez sur vos feuilles. Comme vous voyez sur vos feuilles, elle est très longue. Il y a 6 strophes. Donc, on va les voir deux par deux. Je vous lis une première fois, et puis je vais mettre en évidence les choses qui vont permettre de trouver vous-même les repères. Par exemple, en vert, je mets tout ce qui est louange. Et vous allez voir, on va le retrouver pratiquement à chaque fois. Là, j'ai déjà mis au stabilo jaune l'Esprit-Saint. Donc l'Esprit-Saint va, je vous le dis tout de suite, encadrer l'ensemble. Et puis dans la manière dont je vais lire, je vais mettre en évidence des choses qu'on a déjà vues. Et donc c'est facile pour vous de colorer la feuille que vous avez sous les yeux. Donc voilà, je vous le lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel en Christ. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des fautes, C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu en Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses en Christ, celle du ciel et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Bon, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu long, mais vous avez bien repéré, hein. Voilà, vous avez probablement vu à ma manière de lire qu'on retrouve des thèmes, en effet, qui étaient dans la précédente, Colossiens, notamment la liturgie cosmique, en lui, par lui, bon, vous avez repéré ces répétitions. Et ici, il y a quand même, dans cet hymne, une vraie nouveauté. Une vraie nouveauté qui peut poser des questions. Alors, je vous laisse 12 secondes, 15 secondes, pour que vous me disiez, vous pouvez réveiller vos micros, pour que vous me disiez qu'est-ce qu'il y a de nouveau et d'étonnant et de répété dans cet hymne. Allez-y. Par lui, en lui, pour lui, c'est déjà vu, hein. Alors, quelqu'un a une idée? Ah, j'entends quelqu'un, mais très haché. J'entends haché d'une manière hachée. Alors, j'espère que c'est pas moi. Alors, ben oui, dites-moi.
Je vois l'Esprit Saint.
Ah oui, pas mal, pas mal. Vous avez évidemment l'apparition de l'Esprit Saint, je l'ai largement signalé et même stabulé en jaune. C'est pas mal, mais il y a autre chose qui va poser des questions dans l'histoire de l'Église et même dans notre manière de parler. Je vous donne un indice.
Moi, il me semble que les fils adoptifs, c'est la première fois.
Alors, ouais, fils adoptifs. Et lié à ça, quelque chose qui va faire que Calvin va durcir le propos.
C'est-à-dire qu'on a été prédestinés, il nous avait choisi avant, et on a une récompense et un héritage, on obtiendra quelque chose, une promesse.
On a été choisis, comme si les autres n'étaient pas choisis, on est prédestinés et on va recevoir un héritage. Donc voilà, en effet, c'est ça ce qu'il y a d'un peu bizarre, un peu étrange, et qu'il va falloir que nous comprenions. Alors voilà, mais en effet, c'est une spécificité qui a fait beaucoup débattre dans l'Église. Calvin, pas tellement Luther, mais Calvin a vu pratiquement cette prédestination comme les Romains la voyaient, c'est-à-dire le fatum. C'est-à-dire, en gros, c'était écrit. Tout ce qui vous arrive, c'était écrit. C'était prédestiné. Alors voilà, Calvin a beaucoup, beaucoup durci le propos. Bon, il s'est fait beaucoup contester là-dessus aussi. Et l'Église n'a jamais, l'Église catholique n'a jamais suivi ce durcissement du propos de Paul. Parce que quand il dit « nous avons été choisis », il faut comprendre le mot. Ça ne veut pas dire « nous avons été choisis à l'exception des autres ». Mais ça veut dire que le fait que nous vivions de sa vie, c'est un choix qu'il veut. Ce n'est pas comme les concombres qui poussent tout seuls. Lui, il nous veut. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et prédestiné, ça veut dire qu'avant même que le monde soit le monde, il nous pensait avec lui. C'est-à-dire, il pensait sa générosité. Bon, voilà ce que ça veut dire. Mais en effet, voilà, c'est ça le grand truc. Alors, on va reprendre l'hymne verset par verset, ça vous avez bien repéré, hein, bon, même à la lecture, je l'ai maintes fois signalé, par lui, en lui, pour lui, bon, très bien. Ça revient 9 fois aussi. Dans la première strophe, notez la présence de l'Esprit-Saint, vous l'avez noté. On le retrouvera dans la deuxième strophe et une allusion, enfin dans la dernière partie et une allusion dans la seconde partie. L'ensemble est très trinitaire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur dans l'Esprit. Deuxième pas, Dieu le Père nous bénit, il nous veut en lui. Voilà, c'est ça, il nous a choisi, c'est comme ça que je l'ai traduit, vous voyez, il nous veut en lui. Et pour être en lui, c'est par le Christ. C'est ainsi qu'il faut comprendre donc ces idées, ces expressions un petit peu risquées de la prédestination. Il nous a bénis au ciel, ça veut dire la même chose. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être des fils adoptifs. Prédestiné ne veut donc pas dire du tout que nos existences seraient comme écrites par avance, comme une fatalité. Ça veut dire qu'il y a dans l'acte créateur de Dieu l'intention de partager ce qu'il est, de nous partager ce qu'il est. Créer, c'est prédestiner toute chose et donc chaque chose à lui. Prédestiné, c'est-à-dire avant même qu'il y ait l'histoire, avant même qu'il y ait nos propres aventures, il y a quelque chose qui est antérieur, qui est ce désir de participer à la plénitude de la divinité. Nous sommes prédestinés. Nous sommes comme orientés, si vous voulez, on pourrait dire naturellement orientés vers Dieu. Alors on peut traduire, hein, si ceux qui ne croient pas en Dieu, on peut dire qu'on est naturellement orienté par quelque chose qui nous dépasse, naturellement attiré par l'absolu, naturellement animé par l'infini, bon, etc. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière cette très belle expression. Second groupe, donc c'est les deux strophes centrales, je vous l'ai lu tout à l'heure, avec les repères, toc, bon, on connaît ça maintenant, hein. Et dans ce deuxième groupe, c'est la quatrième strophe, c'est-à-dire celle du bas, verset 9-10, qui explique, enfin qui permet de comprendre la troisième, versets 7 et 8. Le Créateur nous expose son projet, le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, c'est son projet créateur. Selon que sa bonté l'avait prévu en Christ, puisque le Christ est le Logos créateur, il est celui qui crée. Il est l'intelligence créatrice du Père. Et son projet, c'est que nous menions avec lui, par notre ministère, par nos œuvres, toute chose, tout ce qui est créé, vers la louange adressée au Père. On retrouve notre thème, celle du ciel et celle de la terre. Mais bon, mais voilà, ça, voilà le sens qui est donné dans les versets 9-10. Nous sommes chargés, à la suite du Christ, de conduire toutes les choses à la plénitude, celle du ciel et celle de la terre. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait bien passé, il y a eu comme un dévoiement, d'où la troisième strophe. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il ne faut pas oublier, je vous l'ai déjà dit, hein, que le sang du Christ, ce n'est pas d'abord la passion du Christ. Le sang du Christ, comme chez les Juifs, c'est la vie du Christ. Vous vous souvenez, hein, on avait vu dans les sacrifices animaux, les Juifs ne veulent pas consommer le sang, car le sang, c'est la vie. Le sang, disent-ils, c'est même l'âme. Et donc, quand Jésus dit « Je vous donne mon sang, prenez et buvez », il dit « Je vous donne ma vie, l'âme de ma vie, le sens de ma vie ». Ouais, et donc, on voit que la paragraphe 4 vient comme expliquer, expliquer, introduire le paragraphe 3. C'est la richesse de la grâce, don de lui-même, c'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder. Vous vous souvenez le mot que je vous avais expliqué tout à l'heure, que j'avais traduit par déverser. Et là, il a fait déborder jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Pourquoi je vous montre ça? Ah ben oui, j'ai pas. Oh là là, j'ai raté des images. Alors bon, voilà, ça c'est c'est la dernière. Et voilà, en lui, par son sang, nous avons la rédemption. Non, voilà, j'ai oublié mes images au fur et à mesure que je parlais. Et alors, c'est très intéressant parce que vous avez entre la troisième et la quatrième cette espèce de petit crochet qui touche à la sagesse, l'intelligence et le mystère de sa volonté. En fait, c'est très intéressant de repérer ça parce que ça expose bien ce qu'est le mystère. Dans la foi chrétienne, le mystère ne veut pas dire ce qui doit rester caché, ne veut pas dire le secret, mais tout le contraire. Le mystère, c'est ce qu'il faut, ce dont l'intelligence et la sagesse doivent se saisir, le mystère de la foi. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans l'Église, il y a eu un courant, hein, que j'appellerais le courant bétifiant, qui consiste à dire « Ah, c'est un grand mystère !» Ah, il est grand le mystère de la foi, c'est-à-dire surtout ne réfléchissons pas. Hein. Et il y en a même qui ont poussé le vice jusqu'à dire il ne faut pas réfléchir, c'est un péché d'orgueil. C'est tout le contraire que saint Paul dit. Saint Paul, Augustin, saint Thomas, saint Basile, tous, la tradition de l'Église dit évidemment le mystère, c'est quoi? C'est l'exposé de la foi, comme les mystères médiévaux. Un mystère médiéval, c'est une mise en scène, une mise en spectacle pour que les gens comprennent. Voilà, donc, comprennent aussi d'ailleurs du point de vue affectif, du point de vue sensible. Et donc voilà, sagesse, intelligence, mystère, c'est lié. Donc, voilà, ça c'est un truc assez, assez important. Et le dernier groupe, les deux dernières strophes, donc les strophes 5 et 6, bon, il y a quelques retours, hein, ça, bon, voilà, en lui. Le retour de l'Esprit-Saint, voilà, très bien, ainsi que l'expression « à la louange de sa gloire » qui revient deux fois, mais avec ce thème ici de la prédestination, qui va beaucoup nous intéresser. Dans ces deux strophes, Paul évoque d'une part les Juifs, les premiers héritiers, ministres de la promesse, et d'autre part, voilà, je vous le surligne, ouais. Et d'une part, enfin, je vous surligne avec un petit zigouzi là, les Juifs, le domaine particulier, nous sommes devenus le domaine particulier, c'est-à-dire le peuple élu, nous qui avons d'avance espéré, le peuple élu qui attendait le Messie. Ah, donc c'est la première strophe. Hein. Et Paul ne cessera jamais de se dire juif. Pharisien, et même le plus zélé des pharisiens, il revendique d'être fils de Gamaliel. Il sait bien que les Juifs sont le peuple sont le peuple à qui Dieu a parlé en premier. Et il sait bien aussi que les Juifs espèrent le Messie, mais ne l'ont pas vu en Jésus-Christ. Alors que lui, un Juif jusqu'au bout des ongles, a reconnu en Jésus ce que tous les Juifs espèrent. Mais quand il dit « Dieu a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire », ça, en effet, jamais le peuple juif ne l'a perdu, ne l'a trahi. Leur vie est une affirmation de Dieu, une louange au Créateur, et donc et c'est, ça correspond aussi au peuple juif. Donc, la premier paragraphe que vous avez sous les yeux. Et le deuxième paragraphe que vous avez sous les yeux est pour la communauté chrétienne, celle d'Éphèse. Vous aussi, alors que vous n'êtes pas juif, vous avez part à ce projet créateur de Dieu. La rédemption, c'est d'être introduit en Dieu. L'Esprit-Saint est déjà un avant-goût du royaume. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait connaître Dieu. L'Esprit-Saint nous fait connaître Dieu. Il nous fait comprendre les enseignements du Christ. Voilà mes images. Rappelez-vous les promesses du Saint-Esprit dans Jean. Donc, il n'y a plus besoin, alors ça, c'est évidemment une très grande prédication de saint Paul, il n'y a plus besoin d'être un juif pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, on peut comprendre qui est le Christ par l'Esprit Saint. Il suffit d'être attentif à l'Évangile entendu, lu, reçu, où se donne l'Esprit Saint qui nous permettra de comprendre les promesses de Saint Jean, que je vous ai déjà exposées, qui nous permettra de comprendre ce que lui nous a enseigné. Et donc, l'Esprit Saint habite la parole de l'Évangile quand nous le lisons. Et ça, c'est très important à bien comprendre, hein, parce que dans la première partie de la messe, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est une présence réelle. Ça, c'est, faut pas oublier ça, quoi. Il y a trois présences réelles, hein, dans la liturgie eucharistique. Il y a celle, évidemment, du pain et du vin transformés en corps et sang du Christ. Il y a la parole de Dieu et il y a l'assemblée. Voilà, ça c'est, il l'a promis. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Voilà, ça c'est les trois choses. Pas le prêtre. Vous avez tous les réactionnaires qui protestent en disant, mais non, il n'y a que le prêtre qui soit la figure du Christ. Eh bien, pas du tout. En tout cas, le mode de la présence du Christ, c'est donc la parole de Dieu, là où se déploie la force de l'Esprit-Saint qui nous donne de comprendre, le corps et le sang du Christ et l'Assemblée réunie. Ah donc, pour récapituler cette troisième épître, voilà ce que je propose. Bon. Depuis toujours, prédestiné, depuis toujours, le projet créateur, c'est quoi ? Que nous soyons Dieu avec le Christ par l'Esprit. Bon, voilà, c'est un essai. Alors, je vous donne le même conseil que ce que je vous avais donné pour Saint Jean, avec ces épîtres. Le petit travail qu'on a fait façon Kowalski, c'est-à-dire en faisant tous ces petits repères lexicaux, ces répétitions, ces cadences, etc. Ben, essayez de le refaire par vous-même. Vous voyez, vous prenez une feuille, puis vous essayez de comprendre, vous retrouvez ces choses-là, et vous allez voir, ça permet, et là, vous allez devenir de bons juifs, c'est-à-dire pratiquant la méthode orale. Ça permet de bien repérer les cadences, et en fait, ça permet de mémoriser ces textes, qui sont extraordinaires, une très grande densité théologique, pourvu qu'on ne bute pas trop sur des mots qui ont des pièges, comme le mot « prédestination ». Enfin, voilà, bon, vous avez bien compris. Voilà, alors voilà pour ces trois hymnes, hein, vraiment magnifiques. On va passer maintenant au deuxième thème. Il me reste... Ouais, ça va, je pense qu'on va s'en sortir. Le baptême du Christ. Le baptême du Christ, et après les tentations du Christ. Les tentations du Christ est peut-être plus connues de votre part que le baptême du Christ. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout le monde connaît le baptême du Christ. Mais bien évidemment, notre compréhension du baptême chrétien nous égare un peu quand il faut comprendre le baptême du Christ, improprement nommé ainsi. Ce n'est pas vraiment un baptême. Et on ne peut pas expliquer le baptême des chrétiens par le baptême du Christ. Le baptême des chrétiens, on l'explique par la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême du Christ, c'est autre chose. Ce n'est pas le préalable ou l'image du baptême que nous connaissons. Il faudrait plutôt dire ces trois expressions. C'est une épiphanie, c'est une hiérophanie, c'est une théophanie. Hiérophanie, ça veut dire une manifestation du sacré. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. On va le voir, rassurez-vous, hein, je vais développer tout ça. Une épiphanie, donc quelque chose d'extraordinaire. Hiérophanie. Épiphanie, ça veut dire une révélation. Quelque chose est expliqué. Et théophanie, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui se montre. Donc voilà, les trois choses. Donc quelque chose d'extraordinaire, Dieu se montre et quelque chose est expliqué. Le baptême du Christ, vous savez que c'était fêté jadis en même temps que les noces de Cana. Récit qui se conclut par ces mots, tel fut le premier signe, c'était à Cana, et il manifesta sa gloire. Eh bien, c'est encore le cas que les deux faits sont liés chez les orthodoxes. Et la clé, vous voyez, c'est cette histoire de manifester sa gloire. Hiérophanie, épiphanie, théophanie. Alors, on va d'abord s'interroger, on va se poser deux questions. Premièrement, quelle drôle d'idée a eu Saint Jean-Baptiste ? Qu'est-ce qui lui prend ? Donc, on va d'abord expliquer ça. Puis ensuite, pourquoi Jésus vient-il se faire baptiser ? C'est une question encore plus bizarre, c'est un acte encore plus bizarre et une question encore plus difficile. Alors d'abord, qui est Jean-Baptiste ? Que fait-il là ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Jean-Baptiste est d'une famille sacerdotale, de la famille des Lévites. Son père dessert le temple quand vient son tour. Vous savez, c'est Zacharie, dont on parle dans l'évangile de Luc. Il dessert le temple, c'est lui qui met une pelletée d'encens dans la première partie du temple. C'est son tour cette année-là, il le fait. On a la description dans l'évangile de Luc. C'est probablement quelqu'un, donc Jean-Baptiste, qui connaît très bien les usages religieux et leur sens. Forcément, avec un père qui travaille au temple de Jérusalem, tribu de Lévi, bon, il trempe là-dedans. Aussi procède-t-il à une amplification d'un rituel très en cours chez les Juifs. Ça a toujours été un rituel bien connu chez les Juifs, mais du temps de Jésus, il a pris une importance incroyable. Ce sont les bains rituels, appelés chez les Juifs les mikvés. Toutes les familles qui sont un peu fortunées en ont un chez eux. Et alors, par exemple, on en a trouvé beaucoup en faisant des fouilles, on s'est longtemps demandé ce que c'était, mais on a trouvé des mikvés médiévaux quand on fait des fouilles à Strasbourg, à Bayonne, en Alsace, ou bien ici, à Köln, en Allemagne. Le mikvé, c'est donc un bain de purification. Ce n'est pas du tout pour des raisons sanitaires. Ce n'est pas la salle d'eau, si vous voulez. C'est un lieu religieux. Pour, évidemment, c'est une pratique religieuse qui touche au corps. Alors, les Juifs, là-dessus, ils sont très forts. Mais c'est trop peu les religions qui ne touchent qu'à l'esprit. Ça touche au corps tout entier. Alors, ça servait à quoi ? Eh bien, plus vous étiez un Juif observant, plus vous cherchez à pratiquer la loi. Or, il y a 613 prescriptions. Et donc, forcément, vous allez déroger. Et donc, pour vous purifier de cette faute, alors ce n'est pas forcément un péché, vous voyez, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais en tout cas, les Juifs sont persuadés que s'ils ne vivent pas, enfin les Juifs très zélés, que s'ils ne vivent pas la loi, eh bien, ils sont impurs. Et puis, vous avez des règles d'impureté très nombreuses. Je vous ai probablement déjà expliqué, mais quand vous coupez le doigt, je ne sais pas, en épluchant vos oignons, vous contractez une impureté rituelle. Pourquoi ? Parce que vous avez fait couler du sang, même involontairement. Eh bien, ça demande un bain de purification. Donc voilà, ça sert à ça, le mikvé. Mais ici, Jean-Baptiste procède à grand succès, parce que c'est très à la mode à l'époque de Jésus, les mikvés. Il procède à grand succès à un geste de prophète. Probablement a-t-il lui-même été très séduit par ces rituels qui touchent au corps, qui touchent à l'esprit, qui touchent à la démarche pérégrinante. Probablement a-t-il connu la communauté de Qumran, les Esséniens. Et les Esséniens, c'était des gens qui étaient très zélés, très scrupuleux par rapport à la loi juive et qui avaient de nombreux bains. Le bain était pratiquement leur rituel principal. Mais alors eux, c'était assez génial parce que ce n'était pas uniquement un bain de purification parce que vous étiez fautif, mais c'était aussi un bain de purification parce que vous étiez trop au contact du sacré. Alors, je vais vous expliquer. La communauté de Qumran, les Esséniens, avait comme job principal et comme lieu de méditation principal, il est probable que Jean-Baptiste en était, ou au moins a fait une retraite chez eux, et leur job principal, c'était donc d'écrire, de calligraphier la Bible, l'Ancien Testament. Et donc, ils écrivaient le livre d'Isaïe, on les a retrouvés. Hein. On a, c'est un succès énorme, cette histoire. On les a retrouvés, il y a un musée à Jérusalem qui est consacré aux textes contemporains de Jésus, que les Esséniens recopiaient. Et l'exercice de la copie est un véritable exercice spirituel, un peu dans l'esprit que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je montrais ce lecteur, vous savez, qui lisait la parole de Dieu, et dans laquelle, dans la parole de Dieu, habite l'Esprit Saint. Et donc, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous la méditez, quand vous la proclamez, elle est efficace sur vous. Et bien, eux le croyaient. Eux, ils croyaient ça à fond. Et donc, quand ils écrivent un extrait du livre d'Isaïe, je ne sais pas, ils travaillaient 2, 3, 4 heures par jour, quand ils avaient fini cet exercice, ils allaient prendre un bain rituel. Pourquoi ? Ils n'avaient commis aucune faute. Ils n'avaient contracté aucune impureté. Mais ils avaient touché au saint, le saint, avec un S majuscule, parce qu'ils avaient calligraphié la parole de Dieu, c'est-à-dire littéralement incarné le Créateur. Et donc, c'était une tâche redoutable. Donc, il avait la plume qui avait écrit, qui avait osé écrire la parole de Dieu, et ça, c'est génial, hein, et ils se lavaient eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça les bains de, les mikvés, les bains qui ont tant de succès à cette époque. Mais alors, Saint Jean-Baptiste, il a une particularité et il va avoir beaucoup de succès. Les évangélistes sont d'accord là-dessus, il a du succès. Tout le monde vient à lui, dit-on. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, oui, on sait que bah, les récits nous le disent. Hein, des soldats, des collecteurs d'impôts, enfin, voilà, toutes sortes de gens viennent à Jean-Baptiste. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Eh bien, il a inventé quelque chose de tout à fait singulier, c'est que les bains qu'il propose ne sont pas liés au rituel, ni aux scrupules à l'égard de la loi, mais les bains qu'il propose sont une conversion existentielle. C'est très différent. Il s'agit de changer quelque chose du comportement fondamental de votre existence. Et c'est pour ça que les gens viennent. Parce qu'on veut sortir, vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui, on veut sortir des religions purement ritualistes. C'est trop casse-pied, c'est vide de sens. Donc, on veut en sortir à l'époque de Jean-Baptiste aussi. Et lui, il a ce génie, et Jésus fera la même chose, il a ce génie de dire, mais non, ce n'est pas respecter la loi qui est essentielle. Ce qui est essentiel, c'est de faire œuvre de justice. Et ça, on l'avait déjà dans Isaïe. C'est quelque chose qui est déjà dans Isaïe, c'est quelque chose qui est déjà dans Amos. Ce qui m'importe, ce n'est pas vos sacrifices. Ce n'est pas que vous soyez à l'heure à la messe. Ce qui m'importe, c'est que vous fassiez œuvre de justice, que votre vie soit juste. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Et donc, Saint Jean-Baptiste proclame ça. Il va avoir du succès. C'est quand même génial. Hein. Alors, il a donc une espèce de vraie réputation. Il est plus audacieux, plus authentique que la classe sacerdotale à laquelle il appartient. Il est moins fermé que les Esséniens, hein, qui, eux, n'aiment pas le monde, qui se retirent du monde. Jean-Baptiste, on peut dire, il aime les gens. Il va les voir. Et son geste rentre bien dans les pratiques connues et sincères du peuple juif. Les bains rituels. Voilà. Déjà, quand on a compris ça, on a déjà beaucoup compris sur Jean-Baptiste. Mais alors, deuxième question, que vient faire Jésus ? Bien sûr, il est fort loin, Jésus, de la culpabilité, comme s'il avait besoin de se purifier d'un manquement. Lui-même n'éprouve ni cette culpabilité souvent narcissique, ni cette notion biaisée de pureté. Mais, alors, une autre question. Les gens viennent là parce qu'ils veulent une conversion existentielle. Mais le Christ a-t-il besoin de se convertir? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire? Ouais, voilà, ça, c'est une vraie bonne question. Alors, voilà, comment faut-il répondre? Je vais vous présenter deux tableaux de Poussin. Comment faut-il répondre à la question que je viens de poser? Eh bien, Jésus vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints. Voilà, c'est ça le truc, hein. Tout simplement. Pas la peine d'aller vers ceux qui savent ou ceux qui sont quittes, comme ne rien devoir, comme s'ils étaient des purs. Ils n'ont pas besoin de conversion. Jésus le dira lui-même, hein, « Je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui se croient bien portants. Ceux qui se croient bien portants, j'aurais beau prêcher, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. » Moi, je prêche à ceux qui ont besoin, à ceux qui sont, qu'il est possible de rejoindre. Et les gens qui viennent auprès de Jean-Baptiste, qui cherchent une conversion existentielle, et non pas de se purifier de broutilles liées au rituel, alors ces gens-là peuvent être ouverts à la prédication. Voilà la raison pour laquelle Jésus vient au baptême de Jean-Baptiste. Il se plonge, c'est le cas de le dire, au milieu d'eux. Alors c'est pourquoi j'ai choisi deux tableaux de Nicolas Poussin, hein, qui rendent bien compte que Jésus vient se joindre à ceux qui commencent quelque chose. Regardez, ici, tous ces gens sont très désireux de participer à cet acte, hein. Voilà un premier tableau de 1635. Il y a beaucoup de monde, hein, comme vous voyez. Beaucoup de monde est venu. Certains sont très empressés de se dévêtir. D'ailleurs, on se pose la question, hein, pourquoi ? Parce qu'il ne, pour, la question « pourquoi » est légitime, parce qu'aucun ne se trempe dans l'eau du Jourdain. Vous voyez, Poussin fait un baptême, non pas par immersion, mais vous voyez, il verse quelques gouttes, il verse un peu d'eau sur les baptisés. Alors, vous voyez dans ce groupe, dans ce tableau très intéressant, hein, vous voyez à droite tous les âges de la vie, des femmes plus ou moins âgées, des enfants. Au milieu, un groupe d'hommes. À gauche, un pré-ado. Et puis, vous avez un groupe de sceptiques. Voilà le groupe de droite. Regardez, de l'autre côté de la rive, il y a des gens qui arrivent. Regardez le geste de Jean-Baptiste. Hein, ce n'est pas un geste d'immersion. Ils ne descendent pas dans le Jourdain pour être purifiés dans les eaux du Jourdain. C'est-à-dire, il reprend l'image, si vous voulez, du baptême chrétien. Voilà, c'est un petit problème, d'ailleurs, du point de vue historique, puisque ça, c'est bon, aussi, ça peut être un baptême chrétien, mais c'est plutôt le carême des chrétiens que Jean-Baptiste proposait, c'est-à-dire une conversion existentielle, pas le baptême que nous connaissons, nous. Alors donc voilà la grappe des gens qui s'empressent à être baptisés, de l'autre côté des gens qui s'empressent à se dévêtir, et puis vous avez le groupe des sceptiques. Vous voyez, parce qu'on nous dit bien, hein, qu'il y en a quelques-uns, des pharisiens qui viennent de Jérusalem pour interroger Jésus, pour interroger Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie? Alors, non, je ne le suis pas, il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi. Enfin, vous connaissez tout ça. Je vous donne le deuxième tableau, cinq ans antérieurs, plus lumineux, plus céleste, moins d'ombre. Par contre, vous avez les mêmes bougons et les mêmes empressements. Les bougons, vous voyez, sont disséminés ici et là. Vous en avez deux, là, sous l'arbre, un peu bougon, puis vous en avez un tout à fait à gauche. Qui se tient le menton. Alors, lui, il n'est pas bougon, il est interrogatif. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Pourquoi on ne s'en tient pas au rituel? C'était quand même plus simple. Pourquoi il veut qu'on change nos vies? Oh là là, laissez-nous voler tranquillement, les pauvres, laissez-nous tranquillement dépenser des fortunes inutilement. Eh bien non, Jean-Baptiste, il propose un baptême de conversion. Mais alors, dans ce tableau, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez de l'autre côté du Jourdain, très certainement, la silhouette de Jésus. Alors déjà, vous voyez, de dire que Jésus, quand il vient rejoindre ces gens empressés à se convertir, que Jésus a déjà fait la moitié du parcours, c'est déjà beaucoup pour expliquer le baptême de Jean-Baptiste. Mais il y a beaucoup plus. Les Byzantins nous le disent, c'est une théophanie, c'est-à-dire Dieu se montre. Il se montre comme sauveur. Mais comment? Eh bien, il y a quatre choses dans le baptême de Jean-Baptiste. Le Jourdain, la colombe, le ciel s'ouvre et la Trinité. Alors, j'explique. Et ça, ça va vous donner l'ampleur de la signification du baptême du Christ. Le Jourdain lui-même est, comme tel, signe du salut. Or, tous les évangélistes nous le disent, c'est dans les eaux du Jourdain. Pourquoi? Dans les eaux du Jourdain que Jean-Baptiste baptise. Pourquoi il a choisi d'aller dans les eaux du Jourdain? Des mikvé, il y en avait partout, y compris dans la communauté de Qumran. Il y en a partout, dans les familles, dans les villages, ceux qui ne peuvent pas s'en fabriquer dans leur propre domicile, il y a des bains publics, des mikvé publics, pas des thermes, hein. Des mikvé publics. Donc, si vous voulez, comme s'il y avait une église, quoi, une chapelle. Donc, des bains, il y en a partout. Pourquoi il a choisi le Jourdain? Ça a une signification. Et ça a une signification qui dit le salut. Le Jourdain, c'est l'entrée en terre promise. C'est la frontière que Josué, à la tête des Hébreux, a franchie en grande pompe pour entrer en terre promise. Venir baptiser ici, c'est annoncer à nouveau la terre promise, c'est-à-dire celle d'un peuple religieux ayant le souci de la justice. Voilà la terre promise. Et Jésus, en se faisant baptiser, avec tout ce qui va être lié au baptême, c'est-à-dire la Trinité, la colombe, la voix du Père, enfin tous ces trucs-là, le ciel qui s'ouvre, Jésus, en se faisant baptiser par Jean, confirme cette intuition, le ciel qui s'ouvre, la voix qui se fait entendre, tout lui fait dire au texte, je suis la terre promise. Jésus est la terre promise. Voilà, c'est ça une des significations les plus importantes du baptême du Christ. Il vient recevoir le baptême de Jean-Baptiste. On verra dans un moment d'ailleurs qu'il ne reçoit pas le baptême. Mais on va voir. Hein. Mais tout simplement pour dire explicitement, je suis la terre promise. Ne cherchez pas des utopies, c'est-à-dire des lieux. D'ailleurs, ils sont très déçus à l'époque de Jean-Baptiste. À l'époque de Jean-Baptiste, les gens religieux, c'est les Asmonéens qui gouvernent, c'est-à-dire une dynastie mitigée, tiédasse, compromise. Les gens n'ont plus beaucoup d'espérance là-dedans. Ils sont un peu désespérés. La terre promise, même comme Jérusalem, ville sainte, tout ça, les gens ont des doutes. Les Esséniens ont fui Jérusalem. Et donc, il n'y a plus de terre promise. Il n'y a plus de terre promise en tant que territoire. Parce que la terre promise, c'est Jésus. La terre promise, c'est de revenir en Dieu. Donc voilà, ça, voilà, c'est fondamental. Hein, si vous avez compris ça, bon, formidable. Deuxième élément très important, la colombe. Bah voilà, la colombe, c'est une citation quasi explicite de Noé. Avant que ça ne devienne le signe de l'Esprit-Saint, ça devient le signe de l'Esprit-Saint à cause de la scène du baptême de Jésus. Et donc, c'est une citation de Noé. Vous connaissez cette histoire, une histoire fabuleuse que tout le monde connaît. Avec l'inondation et tout, et quand Noé attend la fin de cette inondation, il lâche un corbeau de l'arche, et si le corbeau ne revient pas, deux solutions, ou il est mort d'épuisement, ou il a trouvé une terre ferme. Et un jour, en effet, le corbeau ne revient pas. Alors, Noé envoie une colombe, qui tarde à revenir. Deux solutions. Ou elle est morte d'épuisement, elle est moins endurante qu'un corbeau, ou il y a une terre ferme quelque part. Et un beau jour, on ne nous dit pas quand d'ailleurs, un beau jour, elle revient avec un rameau d'olivier. C'est-à-dire, non seulement il y a une terre saine quelque part, mais en plus, avec une végétation. Il y a de la vie. C'est le salut. Et donc, la colombe au-dessus du Christ, sortant des eaux, c'est bien la même chose. Il y a une terre quelque part, c'est le salut. Il est la terre promise, il est le salut. Les deux images, le Jourdain et la colombe, se combinent. Troisième aspect du salut dans le baptême de Jésus, ou disons le baptême de Jésus comme icône du salut, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le ciel était fermé. Les prophéties s'étaient tues, comme on dit dans le livre de Jérémie. La lampe du temple n'était plus entretenue. Ce sont là des expressions que nous retrouvons en effet dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ça veut dire que la religion s'est éteinte. Elle s'est sclérosée. Trop de distance entre Dieu et sa création. Trop de fatras, de lois, d'encombrements. Le pape François dirait de douane pastorale. Le ciel s'est fermé. C'est quelque chose que toutes les religions du monde éprouvent. Il y a un moment où nos propres religions, qui sont pourtant ceux qui devraient promouvoir le désir de transcendance, deviennent obturantes. C'est arrivé à toutes les religions. Le ciel s'est fermé. Nous avons fermé le ciel. Puis le deuxième aspect dans cette expression, le ciel fermé, c'est que Dieu est difficile à comprendre. Il n'est pas évident. On a la foi, mais comme dans une espèce d'obscurité, de recul, on n'arrive pas à saisir le contenu de la foi. Donc, vous voyez, le ciel s'est fermé, c'est tout ça. Et ayant compris ce qu'est le ciel fermé, nous comprenons ce qu'est le ciel ouvert. Et l'espérance de cette expression, le ciel s'ouvre. Le peuple d'Israël, avant nous, a vu l'espoir de ce ciel ouvert comme une possibilité de connaître, sinon Dieu, au moins quelque chose de lui. C'est toute la méditation qu'ils ont faite sur l'échelle de Jacob, que Jésus va reprendre. Ce patriarche, Jacob, on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, il fuit son pays et la colère d'Isaü, son frère, parce qu'il lui a volé son droit d'aînesse. Et donc il fuit assez loin, il franchit le gué du Yabok, et il fait un songe la nuit. Il voit une échelle dressée entre ciel et terre avec des anges qui montent et qui descendent. C'est donc que le ciel s'ouvre encore et que Dieu se donne encore à connaître. Alors Jacob s'éveille et dit « En vérité, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. » Autant d'expressions qui peuvent strictement désigner Jésus au baptême. Il est la porte du ciel, il est la maison de Dieu. Donc vous voyez, c'est ça qu'il y a derrière cette histoire du ciel qui s'ouvre. C'est une grande image de l'Ancien Testament que les Juifs adulent, parce qu'ils espèrent beaucoup que le ciel ne sera pas tout le temps fermé. D'ailleurs, Jésus lui-même confirme que ces images lui vont bien. Il le dit lui-même. Alors, je vous raconte l'histoire. On est dans le livre de Saint Jean, au chapitre 1er, et Jésus s'entretient avec Nathanaël. Et Jésus lui dit, « Tu t'étonnes de tout ce que je te dis, mais tu verras mieux encore. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Il se désigne comme ça, Jésus. Il a accepté aucune autre désignation que « Fils de l'homme ». Et donc, il est en train de dire à Nathanaël, « Vous verrez, cette histoire qui est arrivée à Jacob, elle va arriver sur moi. Je suis pratiquement la porte du ciel. » Je suis la maison de Dieu. Donc voilà, vous voyez, c'est des choses qui sont absolument extraordinaires dans ces détails, apparemment des détails dans la narrativité du baptême. Et puis, la quatrième chose, ça, c'est facile, hein, vous la connaissez certainement, c'est évidemment la présence de la Trinité. À quoi le voit-on ? Sur les icônes, aussi bien en Occident qu'en Orient, on voit la main du Père, on voit l'Esprit. La main du Père, c'est la voix du Père. C'est difficile à représenter en image. Donc, on voit la main du Père qui sort des orbes célestes, du monde céleste. On voit l'Esprit Saint et on voit Jésus. Donc, cette histoire de la Trinité est évidemment présente dans toute l'iconographie, que ce soit occidentale. Et c'est d'ailleurs ça hein, qui va, je vous l'ai dit tout à l'heure en passant, c'est ça qui va donner dans la tradition iconographique des chrétiens, l'Esprit Saint sera quasi toujours représenté par une colombe depuis le baptême du Christ. Donc voilà, vous voyez, pour le baptême du Christ, hein, un très grand moment, de très, très plein de significations, c'est le geste inaugural. Hein. Juste après ce geste inaugural, vous en avez un autre, lui aussi assez énigmatique, qui pose lui aussi bien des questions, ce sont les tentations du Christ. Pourquoi ça pose des questions ? Parce qu'on peut se demander si Jésus peut être tenté. Vous voyez, tout comme on se demandait, est-ce que Jésus a besoin d'être baptisé ? Non. Est-ce que Jésus peut être tenté ? Pas facile. En fait, il est venu vaincre les tentations pour nous montrer que Satan n'était pas le maître du monde. C'est ça l'idée générale. Mais on va les voir les unes après les autres, on va le voir rapidement, hein, parce que je voudrais qu'on fasse la quatrième partie. On peut en effet penser qu'en Jésus, il n'y a pas d'appétence au mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est chez nous la tentation ? Tenter, ça veut dire on est bien tenté par. Ça veut dire on pourrait bien éprouver du plaisir par quelque chose, une tentation. Or, chez Jésus, on peut difficilement penser, hein, on ne peut pas rationnellement penser qu'il y ait chez lui un partage. Et comme ça, comme s'il éprouvait du plaisir dans le mal comme dans le bien. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu de mal avec ces histoires. Alors que la tentation, c'est bien ça. Hein. La tentation, c'est quoi ? C'est éprouver du plaisir, croire que la pente sera meilleure en suivant ce qui est plutôt mal, plutôt que ce qui est bien. L'homme, pourtant, il faut le rappeler sans cesse, hein, l'homme, alors c'est le christianisme qui dit ça, et c'est foncièrement optimiste, et c'est discutable. Mais le christianisme l'annonce comme une bonne nouvelle. L'homme a un naturel déplaisir, un naturel dégoût pour le mal, pour l'injustice, pour la violence. Sa nature n'est pas là. La nature de l'homme n'est pas d'éprouver du plaisir dans la violence. Être pleinement homme, ça ne veut pas dire faire et goûter indifféremment le mal ou le bien. Et donc, la totalité, vous voyez, de ce récit de création, ça veut dire que les tentations doivent et peuvent être vaincues. Elles doivent et elles peuvent être vaincues parce que la nature de l'homme est davantage vers le bien que vers le mal. Alors évidemment, il y a du mal dans le monde. Et évidemment, nous allons en être éprouvés. Et peut-être bien que nous allons nous rendre complices. Et peut-être que ça va nous procurer un certain plaisir, mais c'est un plaisir déshumanisant. Et le Christ, donc, en connaissant les tentations, affirme que ceci n'est pas notre vie et qu'on peut donc vaincre le mal. En tout cas, que le mal ne l'emportera pas. Donc voilà, ouais, c'est... Ouf, c'est vraiment un enseignement, même sur le plan philosophique, on peut en débattre. Hein. Vous avez des philosophes qui pensent qu'il y a un mal radical. D'autres, comme Machiavel, hein, qui pensent que l'homme n'est pas naturellement bon. Or, nous, nous disons, c'est un optimisme chrétien, mais qui n'est pas béat, nous disons que l'homme est naturellement enclin davantage au bien qu'au mal, et que sa vérité, sa plénitude est dans le bien et pas dans le mal. Que dans le mal, il y a quelque chose de déshumanisant. Vous savez, il suffit de regarder, par exemple, enfin, il suffit de... La question est très complexe, hein, mais bon. Mais un indice, disons, pour confirmer ce que je viens de dire, qui est un peu théorique, les enfants sont toujours naturellement blessés par la violence et par l'injustice. Alors que pourtant, ils ne sont pas des saints. Hein. Ils ne sont pas des saints, ils font volontiers des bagarres, ils sont jaloux. Et pourtant, quand ils voient l'injustice, ou quand ils la subissent, ils sont naturellement heurtés, tous. Et c'est, et voilà, bon, c'est un indice. Bref. Alors voilà le sens global des tentations. Bon, maintenant, allons voir le texte lui-même. D'abord, il y a une chose bizarre, hein, c'est qu'il n'y en a que trois. Or, nous, il y en a 50. Alors, pourquoi il n'y en a que trois dans Jésus? Eh bien, c'est parce que Saint-Luc le dit, hein, vous l'avez ici, je vous ai mis l'extrait, à la fin de tentation de Saint-Luc, ayant ainsi, après les trois tentations, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus. Alors qu'il n'y en a que trois. Mais en fait, ça veut dire que ces trois tentations-là sont comme des archétypes, comme les têtes de chapitre de l'ensemble des tentations. Toutes les tentations que nous pouvons connaître sont à ranger sous l'une ou l'autre de ces tentations. Alors, on va aller voir les unes et les autres, mais là, pour le coup, c'est plus connu. Hein. Je pense que vous avez déjà entendu 40 homélies sur le truc. Hein. Donc, c'est probablement plus connu que ce que je vous ai dit sur le baptême du Christ. Je vous la lis rapidement, puis après on ira un peu plus vite. Donc, je reprends Saint-Luc. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il répond à la tentation par la parole de Dieu. Alors le diable l'emmène plus haut, il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre, il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus répondit, comme la première fois, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple, pas mal quand même, et il dit, si tu es fils de Dieu, comme pour la première, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit. Ah, il est malin, il utilise l'écriture. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, il cite un psaume, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve, le Seigneur ton Dieu. Voilà les trois tentations. Alors, on peut les reprendre très rapidement. La première tentation, c'est la faim. Alors évidemment, elle est toute naturelle, la faim, ce n'est pas une tentation. C'est ni un bien, ni un mal. Mais ce petit scénario qui nous dit il a jeûné 40 jours et finalement il eut faim et Satan lui propose lui propose de changer les pierres en pain. Et en fait, derrière cette image, il y a tout le désir de satiété, tout le désir de consumérisme, on pourrait dire, tout ce qui touche au gavage, au gaspillage, tout ce qui tend à saisir. Donc voilà, c'est tout ça qui est mis sous cette tête de chapitre. C'est comme quand on parle des péchés capitaux. Souvent, le mot qui est utilisé pour désigner la tête de chapitre, ce n'est pas très grave, comme gourmandise, par exemple. Ce n'est pas grave, la gourmandise, mais c'est une tête de chapitre. Il faut lire le chapitre ensemble. Et alors après, derrière ce mot « gourmandise », alors vous en avez plein. Vous avez « consumérisme », vous avez « boulimie », vous avez « gavage », enfin, etc. Bref, je parle de ça parce que c'est lié au pain. Mais c'est vrai de tous les péchés dits capitaux, c'est-à-dire en tête. Et donc cette tentation, elle est en tête de tout ce qui touche à l'avoir, les possessions, si vous voulez. Seconde tentation, alors oui, voilà l'image que j'ai, l'image que j'ai trouvée pour illustrer ce gavage, c'est Johan Hanson, qui est un artiste américain, on appelle ça l'hyper-réalisme américain, il y en a plusieurs qu'on fait dans ce genre, et c'est des statues en matière synthétique, grandeur nature. Alors, il fait ses installations dans des musées, mais aussi ailleurs, dans des gares. Alors, ça marque. Hein. Donc, voilà. Et ça, il l'appelle Supermarket Lady. Bon, voilà, ça donne pas envie. Hein. La deuxième tentation, elle est bizarre. Elle est vraiment bizarre. Elle touche au pouvoir. Mais ce qui est très étrange dans cette seconde tentation, c'est comment se fait-il que le Christ ne conteste pas cette parole invraisemblable. Je donne, c'est Satan qui parle, il dit « Je donne les pouvoirs de ce monde à qui je veux parce que tout cela m'a été remis. » Waouh ! Alors ça, c'est une vraie question, vous savez, qui a hanté beaucoup les interprètes. Hein. Est-ce bien vrai que tout pouvoir est forcément satanique ? Ça pose un vrai problème. Alors, l'Église, évidemment, s'est refusée à dire ça. Pourquoi ? Parce que l'exercice du pouvoir est un lieu de tentation, évidemment. Tous ceux qui exercent le pouvoir vont être tentés. Et c'est peut-être la tentation la pire, parce qu'elle touche à autrui, elle victimise. Mais l'Église, par contre, c'est toujours, enfin les Juifs aussi avant nous, hein, mais, et les philosophes grecs, se sont toujours retenus de dire que ce n'est pas parce que c'est un terrain particulièrement dangereux que c'est nécessairement pervers. Voilà. Comme le sexe, c'est un terrain particulièrement dangereux, mais ce n'est pas nécessairement pervers. Là, le pouvoir, à la différence du sexe dont tout le monde se confesse pendant des siècles et des siècles de catholicisme, très peu de gens se confessent sur pourtant ce que le Christ a désigné comme un péché majeur, la perversion du pouvoir. Il n'a jamais désigné le sexe comme domaine majeur de péché. Mais l'Église a corrigé, ou perverti. En fait, le vrai terrain, c'est l'avoir, et le pouvoir. Et alors, évidemment, l'Église a développé, ça s'est développé à l'abbaye de Saint-Victor à Paris. Et on a bien compris que le pouvoir, ça n'était pas, comme dans le Seigneur des Anneaux, une espèce de méga toute-puissance, en effet enivrante, car le pouvoir a pour lui d'enivrer. Elle rend fou. Et en effet, elle tend toujours, à la toute-puissance. Mais il y a moyen de le contrôler, car il n'y a pas de société sans l'exercice confié du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que l'exercice confié du pouvoir ? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas avoir la même autorité ni le même pouvoir. Et donc, on va déléguer à quelques-uns d'entre nous plus de pouvoir et d'autorité que d'autres. Et ça, il faut le confier. C'est-à-dire, il faut avoir confiance. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite note de philosophie, théologie, morale, déjà médiévale. Hein. Et donc, à cette tentation, Jésus répond par l'Écriture. La troisième tentation, alors elle a été bien vue, parce que Satan, pour parler de la troisième tentation qui touche à l'être même de Dieu, donc avoir, pouvoir et identité, l'être même. Si tu es le Fils de Dieu, fais donc le magicien. Voilà. Autrement dit, si tu es le Fils de Dieu, ne sois pas Dieu, ne sois pas Jésus de Nazareth. l'un d'entre nous, l'un parmi les hommes. Non, non, sois magicien, fais un truc extraordinaire. Fais le magicien, fais le mage, et tu verras, tout le monde se prosternera devant toi. C'est-à-dire, là, Satan fait porter la tentation sur l'être même qu'est Jésus. Jamais Jésus n'a voulu faire de l'esbrouf, ni faire le magicien. Au contraire, quand on voulait le faire roi, il fout le camp. Et donc, vous voyez, c'est une tentation qui est, elle, très portée sur l'identité même. Et donc, celle-ci, c'est celle qui consiste, qui est encore fréquente de nos jours, hein, qui consiste à dévoyer l'être, à dévoyer entre nous, hein, à mépriser ce que l'autre est vraiment, ou au contraire, à avoir une espèce de méga déformation de ce que je suis vraiment, ou encore de déformer Dieu, de prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas, de vouloir que Dieu soit un magicien ou soit le bureau de la sécurité sociale. Et donc, voilà, ou bien une image déformée de nous-mêmes. Bon, voilà. Et donc, voilà, vous avez ces trois tentations qui sont celles de l'avoir, du pouvoir et de l'être. Et Jésus a enseigné l'antidote. L'antidote, c'est quoi? Eh bien, c'est par rapport à l'avoir, la frugalité. Par rapport au pouvoir, l'aumône, c'est-à-dire le souci d'autrui, c'est-à-dire l'apitoiement à l'égard d'autrui. Non plus du tout cette tentation à dominer, à écraser, à me faire valoir moi d'abord sur les autres, mais l'inverse. L'apitoiement, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est quand l'autre prend pouvoir sur moi. Alors j'ai pitié. Sentiment dont Nietzsche avait horreur. Et alors, grâce à Dieu, il voyait bien que les chrétiens en étaient les spécialistes. Tant mieux. Si c'est ça qu'on voyait des chrétiens, ce serait magnifique. Et puis le troisième, c'est la prière. La troisième antidote, c'est la prière. C'est-à-dire, ne prends pas Dieu pour un magicien. Ne prends pas Dieu pour un tout-puissant, comme tu penses la toute-puissance napoléonienne. Quand tu penses que ça, tu défais l'être même de Dieu. Et le vrai réajustement par rapport à Dieu, c'est la prière. Donc voilà, Alors je voulais finir par... C'est beau les tentations aussi, hein, c'est un très beau texte, mais ça, bon, on en sort, hein, vous l'avez eu il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Donc, non, il y a 15 jours. Et puis vous connaissez les commentaires habituels. Alors, le dernier point, le salut de la matière, pourquoi je reviens là-dessus? Eh bien, c'est à propos d'un petit détail du baptême du Christ. Deux choses. Hein. Je vais vous parler de « il vivait avec les bêtes ». Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a un rapport avec le baptême du Christ. Et je vais vous parler des bains de glace. Ça a un rapport avec le baptême du Christ. Le premier point, c'est un mot de l'évangile de Marc sur les tentations. Marc est très très court, il a un verset, il ne décrit pas les trois. Il dit ceci, et aussitôt, donc après le baptême, aussitôt l'esprit le pousse au désert, ça c'est commun aux quatre. Et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan, c'est commun. Là on s'attend à la description des trois tentations, pas du tout. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça, c'est bizarre. On sait que Saint Marc est sobre. Il est très court, il n'est pas bavard. Il fait des phrases courtes, il n'écrit pas bien, il n'en rajoute pas, il n'y a pas de fioriti. Ce n'est pas Saint Matthieu, avec des discours très organisés, un plan très fixé. Ce n'est pas Saint Luc, avec cette tentation d'historien. Et ce n'est sûrement pas Saint Jean, avec son déploiement poétique. C'est Saint Marc. Eh bien, il y a deux choses très étranges dans cette histoire de « il vivait avec les bêtes ». Certainement, il y a deux allusions. Une allusion au livre de Daniel et une allusion à l'Éden. Vivre avec les bêtes, l'Éden, le paradis. Mais la première est moins connue. C'est le livre de Daniel, c'est le seul endroit où on fait vivre quelqu'un avec des bêtes sauvages. Daniel, en effet, vous connaissez cette histoire, hein. Il est jeté, c'est un jeune hébreu hein, qui est exilé et employé à la cour du roi de Babylone. Il est nommé tantôt Balthazar, tantôt Darius, on ne sait pas très bien quel roi c'était, c'est une histoire. Et comme il ne veut pas participer au culte du roi, il ne veut pas adorer le roi, parce qu'il est hébreu, on le jette dans une fosse au lion. Et il a manque de chance, enfin, heureusement pour lui, il apaise les lions, les bêtes sauvages, qui ne le touchent pas. Quand le roi Darius voit ça, il délivre Daniel, et immédiatement, bien sûr, et il lui demande, mais quel est ton Dieu qui fait de tels miracles? C'est dans Daniel, chapitre 6. C'est le même Daniel, et c'est ça l'allusion aux tentations, c'est le même Daniel qui, au chapitre suivant, chapitre 7, a une vision apocalyptique de quatre animaux abominables et destructeurs qui sont vaincus par une étrange figure appelé le Fils de l'homme. Première fois qu'on trouve cette étrange appellation, qui, à proprement parler, ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus acceptera ce titre, et c'est le seul titre qu'il acceptera. Et il va se le donner à lui-même. C'est celui qui vainc la bestialité. C'est probablement l'allusion numéro un de ce tout petite mention de Saint-Marc. C'est ça qui est embêtant avec Saint-Marc. Hein. C'est qu'un mot veut dire beaucoup. La deuxième citation qu'il y a dans ce mot, hein, c'est plus connu. C'est bien sûr le livre de la Genèse, c'est-à-dire le paradis, si vous voulez, l'Éden. Là où tous faisaient du bien à tous. Avec cet idéal et fantastique, on a raconté cette histoire-là, bien sûr. Hein. C'est un conte, comme conte et légende. Mais ça va rester une sorte d'image idéale du temps où nous étions en communion, en communauté, presque en consanguinité avec Dieu. Et cette communion, cette paix, entraînait la paix du cosmos tout entier, ordonnait la paix du cosmos tout entier. C'est ça l'idée de l'Éden. Et d'ailleurs, Isaïe, quand il rêve des temps futurs où Dieu sera connu par tous, il nous dit ceci, c'est au chapitre 11 d'Isaïe, formidable chapitre. C'est là où vous avez aussi les promesses du Saint-Esprit. Chapitre 11, « Le loup vivra avec l'agneau. » La panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lion sont, et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront le même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson jouera sans danger près du nid du cobra, et un tout jeune garçon pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal, ni destruction sur l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est magnifique. Eh bien, vous voyez, quand d'un mot, Marc nous dit « et il était avec les bêtes sauvages », voilà ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'est assez prodigieux. Je vais finir avec un autre point de détail, les bains de glace. Ça, c'est rigolo. Celui-ci, ce détail, est une interprétation de l'Église d'Orient et inconnue chez nous. C'est pour ça que ça va peut-être vous intéresser. C'est très, très curieux. Qu'est-ce que c'est ? Que les bains de glace. Il y a une phrase dans l'évangile de Matthieu cette fois-ci, qui est bien étrange. Vous voyez, je soulève des étrangetés chez Marc, et voici une étrangeté chez Matthieu. Je vous lis le texte, c'est dans Matthieu au chapitre 2, versets 13 à 14. 13 à 16. Alors paraît Jésus. Ah, le verbe paraître est déjà beaucoup de choses à dire. il est jusqu'à auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulut en empêcher en disant, il n'est pas fou, hein. Il a parfaitement compris, en disant, il est en train de prêcher un baptême de conversion. Il voit Jésus se pointer. Qu'est-ce qu'il dit ? Jean voulut l'en empêcher en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ? Mais Jésus lui répond, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est bon. Alors, voilà, Matthieu rajoute, alors Jean le laissa faire. Détail. Qui est l'acteur du baptême ? C'est Jésus. Qui vient-il baptiser ? Nobody. Il vient baptiser l'eau. Alors ça, les Byzantins sont abondants sur ce que je viens de vous dire. Lors du baptême du Christ, j'ai dit que le Christ n'avait pas besoin d'être purifié ni converti. Jean ne s'y trompe pas. Jésus lui dit « laisse faire ». Matthieu confirme, il le laisse à faire. C'est donc Jésus qui est acteur. Pour l'Église d'Orient, c'est clair, si Jésus vient au Jourdain, ce n'est pas pour être purifié, c'est lui qui purifie les eaux du Jourdain et qui bénit le cosmos. Il se lie au cosmos et à la matière de ce monde. Il s'y plonge et la sanctifie. Il destine le monde à participer au bien de l'homme. C'est une très belle tradition byzantine que nous voyons sous deux formes, dans les icônes et dans le bain de l'épiphanie. Je vous montre ça. Sur les icônes, c'est facile. Vous voyez ces espèces de petits de silhouettes bizarres dans certains nombres d'icônes byzantines. Vous avez au pied du Christ des petits êtres étonnants hein, qui sont des symboles du cosmos. Ici, vous avez le symbole du fleuve, de tout ce qui coule, de l'élément liquide. Dans d'autres icônes, hein, chez nous, en Occident, parce que la tradition est commune, disons, jusqu'au XIe siècle, bien c'est pareil, on voit une espèce de monsieur là, qui tient une sorte de jarre. C'est celui qui est à l'origine de tout ce qui coule au monde. Et puis, vous avez les petits poissons qui font la fête à Jésus parce qu'ils sont eux aussi sanctifiés par ce baptême. Je vous montre une icône contemporaine. Ah non, ça, je vous montre des détails d'abord. Les petits poissons qui sont tout heureux, regardez. On a l'impression qu'ils chantent. Et une icône contemporaine d'Ukraine, de Kiev, qui montre également cette espèce de turbulence du cosmos qui reçoit le baptême. C'est le cosmos qui reçoit le baptême. Et il jubile, il se met presque à danser d'allégresse quand le Christ s'y plonge. Alors, les Byzantins ont une étrange tradition, je voudrais finir là-dessus, c'est assez étonnant. À l'Épiphanie, ce sont les bains de l'Épiphanie, à l'Épiphanie, et à Moscou et en Russie, il fait moins 20, hein, on ouvre dans la glace des lacs et des fleuves, car les fleuves sont pris dans la glace, et les lacs évidemment, on ouvre à la scie un orifice que vous voyez là, une trappe, qu'on appelle le Jourdain. Le patriarche vient en grande pompe le premier jour de l'épiphanie et il bénit cette trappe. Et les Russes vont pendant une semaine, défiler pour se plonger dans les eaux du Jourdain, pour prendre sur eux la bénédiction que Jésus a faite aux eaux quand il s'y est plongé. Ce sont les fameux bains de l'Épiphanie en Russie, redevenus très à la mode. Même Poutine a fait ça devant les caméras. Hein. Et alors, ça dure pendant une semaine, jour et nuit, c'est un succès incroyable. Les gens viennent se plonger dans l'élément liquide, à peine un degré, au pied d'une grande croix sculptée en glace, dans cette fosse qu'on appelle le Jourdain, pour être régénérés. Alors, en effet, c'est efficace. Hein, ça vous plongez là-dedans, soit vous mourrez, soit vous êtes revigoré. Ça, c'est clair. Et donc, ils le font encore maintenant. Et bien, c'est une compréhension correcte du baptême. Ouais, c'est très étrange. Hein. Mais c'est, voilà, c'est une drôle de manière de comprendre le baptême qui, pour nous, est complètement étrangère, mais qui correspond bien quand même à tout ce que j'ai essayé de vous expliquer à propos du baptême du Christ. Voilà, et pour finir, on retourne en Ukraine hein, pour saluer cette nation mise à mal avec cette étrange icône contemporaine aussi. Tout à l'heure, je vous montrais une femme. Maintenant, je vous montre un homme, un autre atelier contemporain. Les Ukrainiens ont tenté des interprétations contemporaines de l'iconographie, et c'est tant mieux, hein, au lieu de répéter, répéter, répéter sans cesse la même chose. Et alors, lui, c'est très étrange parce qu'il utilise beaucoup comme support des matériaux de récupération. Et ici, très étrangement, c'est une plaque de blindage. Voilà, une plaque de blindage qu'il a récupérée sur une arme russe. Et sur laquelle il peint le baptême du Christ. C'est fou. C'est très, très étrange. Voilà, c'est sur cette image fabuleuse que s'arrête ce cours. Il est l'heure d'ailleurs, il est temps. Voilà. Bon, on a peut-être quand même une ou deux questions, hein. On va pas s'en priver. Ou des remarques, si vous voulez.
Vous avez employé à plusieurs reprises le mot cosmos.
Ouais.
Et pourquoi vous employez ce mot et pas création?
Ah, très intéressant. Parce que cosmos, c'est donc un mot grec qui est le contraire du chaos. Et je vous en parlerai plus en avant, donc quand on finira ce parcours. C'est le salut de l'ordre. Ce que vient sauver le Christ, c'est l'ordre du cosmos. Parce que la création a comme été désordonnée par le mal. Et lui, il va en quelque sorte remettre la création d'aplomb. Ah, c'est pour ça que j'utilise le mot cosmos. Mais en effet, il est bien question de la création. De la création qui va être restaurée par le Christ. C'est une chose que les chrétiens byzantins, bien sûr, n'ont jamais oublié. Nous, on l'a un peu oublié, mais récemment, hein. C'est assez récent, regardez, Hildegard von Bingen, Saint François, bien sûr, le pape François, bien sûr, il y a Isaac de l'Étoile, il y a Bonaventure, enfin, c'est la tradition de l'Église aussi, hein, cette histoire de salut du cosmos. Voilà. Oh, la dernière fois, la prochaine fois, ce sera la dernière. C'est d'un triste. Ben voilà, il faut bien que ça finisse. Et on finira avec le Notre Père. C'est une belle fin quand même.
Super.
Et là aussi, je vous réserve quelques surprises. Voilà.
Bon, merci beaucoup.
Ben, merci.
Merci, madame.
Merci.
C'est tellement riche qu'on en
Merci.
reste
C'est
assommé.
enregistré, on peut même réécouter pour les passages qu'on souhaiterait approfondir. Donc ça, c'est super aussi.
Merci beaucoup. Très
Merci
bien.
infiniment. Très bonne
Merci,
soirée.
madame. Merci beaucoup. Bonne
Merci,
soirée.
Bernard.
Au revoir.
Merci, bonne soirée.
À tous. Oui.